19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et de retour ce soir pour une nouvelle émission en votre compagnie sur l'antenne de Beurre FM. On est le mercredi 25 septembre et vous êtes dans Time Sport. Restez donc à l'écoute comme chaque soir de 19h à 20h avec vous, chers auditrices et auditeurs, dans cette émission. On le rappelle, comme chaque soir, on peut réagir avec les consultants de ce soir qui m'accompagnent en composant le 01 53 48 3000, mais aussi sur la tutosphère pour réagir avec vos consultants. Au menu de cette émission, on reviendra sur le duo Silvinho-Juninho face aux turbulences du côté de Lyon, mais aussi le Barça qui se rassure légèrement contre Villarreal 2-1 et Kylian Mbappé à nouveau préservé face au Stade de Reims, sans oublier l'Olympique de Marseille qui s'en sort très bien à Dijon. C'est parti, GoGo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner, on aura la ravissante Cynthia Lauvergeon pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, sans oublier le coach Tollet. Comment ça va, coach?
Bien, impeccable.
Ouais, tranquillement.
Ouais. Tranquillement, calmement.
Ça va, il pleut pas aujourd'hui sur la région parisienne. El Presidente, Kamel Aïd Kheira, est de la partie aussi ce soir. Et c'est pas bon, parce que là, je n'ai pas fait exprès avec toute l'équipe d'ailleurs de Time Sport en préparant le conducteur de cette émission. Parce qu'il y a encore du Silvinho et Juninho au menu de Time Sport.
Bonjour, bonsoir Bilal, est toujours heureux d'être parmi vous.
Et ça va bien.
Un bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Oui, ça va bien, on va parler du gang des chemises blanches.
Ah,
ils vont
là
bientôt
là
nous quitter, sûrement. Oui.
Moi, je connais pas. Farid Roy, c'est de la partie. Comment ça va, Farid?
Très bien, merci pour l'invitation et très content d'être avec vous.
Et nous aussi, Farid. Un petit clin d'œil à la réalisation, la personne de Yanis, notre réalisateur. C'est parti, on se cale tranquillement. C'est l'heure de Time Sport, 19h jusqu'à 20h, 1h sur l'actualité sportive en France et ailleurs avec Lyon.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, Silvinho, Juninho, turbulence en ce moment du côté de Lyon. Le club rhodanien, l'OL, débarque à Brest, justement, lesté d'une série de 5 matchs sans victoire qui place déjà le duo brésilien sous pression. Eh oui, il n'y a pas que Zidane qui est sous pression. Il y a aussi ce duo face à Brest ce soir, 9e de Ligue 1. Ça fait sourire Farid, je ne sais pas pourquoi. Et donc, bien connaître le club brestois. Avant le début de cette 7e journée, est embourbé dans une dynamique inquiétante. Silvinho saura, devra-t-il mettre en place un système plus offensif pour gagner et séduire comme il le réclame certains membres de la direction, mais aussi les supporters lyonnais. Kamel, nous t'écoutons.
Bon, bah écoutez, j'ai la satisfaction d'avoir eu raison depuis le mois de juin. Je veux dire, Juninho a fait la plus grosse
erreur. Et pourquoi?
Parce que Juninho,
depuis le mois de juin. Non, il ne faut pas oublier Juninho.
Moi, je pense que, voilà, j'ai dit, fallait respecter le football. Je veux dire, on ne peut pas mettre deux néophytes à des postes hyper stratégiques comme ceux-là dans un club comme Lyon, qui a toujours tenu ses engagements. Un gros big up à Genesio, terminé 3e, et demander à deux néophytes, deux débutants, aussi beaux soient-ils, aussi bien repassés soient leurs chemises, de faire progresser Lyon. Ça veut dire que si le président Olaz voulait faire progresser Lyon, ça veut dire qu'il fallait qu'il termine 2e ou 1er. Donc moi j'ai dit, Juninho a fait la plus grosse erreur. Pourquoi? C'est un débutant en tant que directeur sportif. Il ne connaît rien au football par rapport à ça, à ce métier-là. Il aurait dû mettre un coach qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience, en Ligue 1 ou ailleurs, ce qui lui aurait permis de gagner du temps. D'accord? Et ça, c'est son erreur. Il a voulu être néophyte, faire du népotisme, mettre son copain Silvinho, qui ne connaît pas le football français, qui n'a jamais été entraîneur, parce que être adjoint, c'est un peu être une assistante sociale. Hein. Vous n'avez pas la pression des résultats.
Quand même.
Non, si. Je veux dire, c'est que Bilal, quand tu es adjoint, tu n'as pas la pression des résultats. Les dirigeants ne sont pas sur toi. Tu ne fais pas l'équipe, etc. Donc, il parle pas. Et on en avait parlé. Il parle pas français, donc même lui il l'a dit, on m'a dit que non c'est pas grave et tout, même lui il a dit en conférence de presse, c'est un gros, mais il a que des défauts dans ce poste là, il parle pas français, il a aucune expérience, il a jamais entraîné, et vous voulez qu'il apporte quoi aux joueurs? Sincèrement il peut rien apporter, on a vu, il joue contre PSG, il joue à 12 défenseurs, pas un seul tir. Il joue en 3-5-2, 3-5-2 c'est un système où vos deux latéraux normalement ne doivent que monter pour aller chercher plus haut, il leur dit de ne pas monter, mais il est où? On est où? On se moque du monde. On respecte pas le football, sincèrement. Bravo. Moi, je veux dire, il y a un moment donné, faut arrêter. Et là, ils sont plus qu'en sourcil parce que le président Olaz, est intervenu. Et je crois qu'il a compris qu'il a fait une grosse erreur. Maintenant, ils vont aller tous les deux partir, comme l'a fait Juninho il n'y a pas longtemps, signer des autographes et embrasser des supporters dans les centres commerciaux. C'est tout ce qui sont bons. Faut arrêter. Faut pas prendre les. Voilà, faut respecter le football. Voilà.
Farid, après cette réaction, quand même.
Je peux aller
coup de gueule,
dans le sens de Kamel.
De Kamel, ouais.
Il est vrai que Jean-Michel Aulas a décidé de changer complètement de stratégie cet été. D'habitude, à l'Olympique Lyonnais, il n'y avait que des entraîneurs français. Ça a été un tournant cet été en donnant cette chance à des novices en la matière. Un duo technique brésilien qui plus est. On peut remarquer que jusqu'à présent, il s'est trompé. Jean-Michel Aulas avait pris un peu de recul et donnant tout le pouvoir à Juninho. Juninho, on ne le voit pas en conférence de presse. On voit de temps en temps Silvinho. Et là, tout d'un coup, Jean-Michel Aulas trouve qu'il y a le feu à la maison et donc réapparaît. Je pense qu'il a dû voir qu'il y avait quand même quelques anomalies dans l'organigramme technique actuel. Et il a mis son petit pic de pression avant ce match qui se déroule en ce moment à Brest, ce qui n'est pas gagné d'avance, car rappelons quand même que Brest est une bonne équipe, qui a même le même schéma tactique ce soir a priori que l'Olympique Lyonnais, en 4-2-3-1. Le stade brestois a coulé uniquement contre l'Olympique Nîmes 3-0 le 31 août dernier, mais sinon jusqu'à présent a fait bonne figure dans son championnat de Ligue 1. Donc pour les Lyonnais, ce n'est pas gagné d'avance non plus ce soir. Et il est vrai que Kamel a peut-être raison. Ce soir, on pourrait avoir une nouvelle du côté de Lyon.
Le match vient de commencer, hein. On le rappelle pour toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM pour le comptant de la 7e journée entre le stade de Brest et l'Olympique Lyonnais. Le coach Tollet, est-ce que ça va?
Ouais. Ouais. Lyon. Impeccable. Lyon. Lyon.
Et d'accord Lyon, avec Kamel. Lyon, tu as deux choses à dire sur ce club.
Lyon, tu t'attends à ce que ça soit le numéro 2 en France derrière l'intouchable Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que quand tu vois la prestation. Bon après contre le PSG c'était encore autre chose, mais je veux dire quand tu vois la prestation globale de cette équipe depuis quelques journées, il est normal que ça ne voilà que Jean-Michel Aulas tape du poing sur la table. Alors après est-ce qu'il a fait une erreur stratégique? C'est vrai que ce sont des nouveaux dirigeants qui arrivent, qui découvrent. Je pense que vous les condamnez un petit peu trop vite. Après. Lyon est un club qui doit avoir des résultats, même si on en parle un petit peu moins. Donc Lyon doit s'imposer,
prime, hein.
Bien sûr.
Mais
je pense qu'on les condamne un peu trop.
Non,
vite.
Ils se sont condamnés tout seuls. Ils sont incompétents.
Et il faut savoir que Jean-Michel Aulas.
Même s'ils gagnent à Brest, coach Tollet. Même s'ils gagnent à Brest, qu'est-ce qu'ils apportent de plus
à
Lyon? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus?
Si tu gagnes à Brest,
qu'est-ce t'apportes de plus sur la saison? Il y a un moment donné. Mais non, mais faut pas sur du one shot. Dans un club comme Lyon, c'est pas du one shot.
Une série de 5 matchs.
Oui, alors ils vont gagner un match contre Brest. Et après, c'est quoi? Après, il va se passer quoi? Ils seront toujours aussi novices. Arrêtez. Tu joues contre PSG,
ouais. Claude. Qu'est-ce qui se passe si tu
pas un tir contre le PSG? T'imagines, c'est une honte.
Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si tu t'imposes à Brest et tu t'imposes encore samedi?
Oui, avec Dessy, on mettrait Paris en bouteille.
Attends, mais t'as encore une semaine.
Moi, avec Dessy, je m'appellerai Zidane.
Le président Aulas, il est dans son rôle. Il a mis une certaine pression. Ok, c'est son rôle. Il y a pas de souci. Attendons de voir cette semaine. Je suis d'accord avec toi. On attend un petit peu plus. Je pense que si ces mecs-là sont mis à ces postes-là, c'est pas des clowns non plus. Je pense qu'ils ont un minimum quand même de
quelles compétences. Vas-y, dis-moi les compétences de Juninho en tant que directeur sportif.
Voilà, c'est là. J'étais pas à la réunion entre Juninho et la faute. Il était peut-être pas moi. Donc maintenant, je les laisse. J'attends de voir. C'est vrai qu'on est déçus. On s'attend à beaucoup plus de la part de Lyon. Je suis d'accord avec toi, mais on peut pas les condamner comme ça. Et d'autant que Jean-Michel Aulas n'est pas un adepte de licencier.
Oui,
comme
Jean-Michel Aulas n'était pas un adepte, il l'a dit plusieurs fois, je ne prendrai jamais un coach qui ne parle pas français. Là, il l'a fait. Maintenant, directeur sportif.
C'est Silvinho qui parle français.
Non, je parle coach, entraîneur. Comment... Celui qui est sur le banc, c'est Silvinho. C'est lui qui fait les séances, c'est pas Juninho. D'accord. Donc maintenant, je vais l'expliquer. On parle, nous tous, souvent sur ce plateau, sur cet excellent plateau, du rôle très important du directeur sportif. Aussi bien, on en a parlé à Monaco, on en a parlé à Marseille, et on a toujours dit souvent, on a dit, quand le directeur sportif est mauvais, ne fait pas les bons recrutements, le club, ça tue la saison du club.
Là, tu prends un
directeur sportif qui est débutant, qui est même plus que débutant, il a jamais été directeur sportif, ça fait 10 ans, il est jamais apparu dans le milieu du football, il s'est pas formé, il a pas pris un petit club pour se faire la main, etc. Il a aucun réseau. Que veux-tu qu'il fasse de ses journées?
Qu'est-ce que t'en sais?
Mais c'est vrai que
il a aucun réseau. c'est logique.
Sais rien.
Oui, il a quoi? Il a quoi comme réseau? Vas-y, dis-moi. Mais il a quoi? Il a fait venir quoi comme joueur? Quel joueur il a fait venir?
C'est pas un joueur qui a joué au district du Nino. C'est le meilleur joueur du. C'est le joueur légendaire de Lyon.
Bien sûr.
C'est un joueur qui a
appelé quand même.
D'une des meilleures générations du Brésil, Ronaldinho, etc.
Oui, oui. Et alors, Ronaldo.
Mais alors. Non, mais forcément, s'il est là, il n'est pas arrivé comme ça. Il n'a pas fait un tirage au sort, Jean-Michel.
Vas-y.
Alors, Claude, tu le sais. Comment tu expliques alors l'absence de Aouar? Manque de confiance de ce joueur qui était titulaire indiscutable l'année dernière.
C'est pas le problème d'Aouar.
Que c'était un problème.
C'est un problème collectif.
C'est la faute des joueurs.
C'est un problème collectif. Je suis désolé.
Oui.
On est d'accord.
Quand c'était Genesio,
bon.
C'était la faute de Genesio.
Mais pourquoi il est pas bon? Peut-être qu'il est pas mis dans les bonnes dispositions.
Je suis d'accord.
C'est quoi son animation?
Telle que l'animation.
À part de dire rester tous derrière.
Comment?
À part de dire rester tout derrière, c'est quoi? Ne pas bouger.
L'animation qui m'en passe pour le PSG, je suis désolé, elle est cohérente.
Elle est cohérente.
Tu prends un but à la 87e
minute
par Neymar.
Tu ne prends mais là tu donnes. On a critiqué. Tu peux pas donner raison à ce résultat, quoi, ce match.
Tolé, je vais te donner ma chaise.
C'est de la mauvaise foi. Tu me l'as enfuré là.
Pas toi, coach.
Pas Kamel.
Non, elle est cohérente. Pourquoi? Elle est cohérente pourquoi? Parce que justement, t'as une équipe qui en manque de confiance.
Alors, je vais envoyer un terme. Elle est cohérente pour les pisse froids.
Tu demandes à éviter qu'on coupe la parole. Donc laisse-moi terminer.
Elle est cohérente pour l'audience. Vous laissez terminer.
Elle est cohérente pourquoi? Parce que t'as une équipe lyonnaise qui est malade. D'accord, t'as deux cas de figure. Soit tu allais chercher haut et t'as des joueurs en pleine confiance pour leur entrée.
Mais aussi, bien sûr.
Soit tu attends très bas. À 3 minutes près, c'était réussi. Alors certes, offensivement, il y avait rien. Pourquoi il y avait rien? Parce que tu as des joueurs comme Dembélé et comme il s'appelle. Et même si Depay qui était incapable de garder le ballon pour permettre au bloc de remonter. À partir de là, déjà ton animation.
Alors arrête.
Avec cet effectif.
C'est ce que je suis en train de dire. T'écoutes pas ce que je te dis.
Mais laisse-le terminer.
Garder le ballon pour pouvoir permettre au bloc de remonter. Il gardait pas le ballon. Forcément, ils étaient en difficulté.
Avec cette équipe, on l'énerve pas, s'il vous plaît.
Non, pas du tout.
Avec cette équipe, de l'Olympique
Lyonnais. Il vaut mieux faire, je suis d'accord, il y a mieux à faire. Mais quand tu perds Fekir, tu perds Dombé.
Vaut mieux perdre avec les honneurs, coach. Parce que Genesio, il a toujours gagné à Lyon contre le PSG.
Exactement.
Parce qu'il a toujours mis en place une tactique offensive, donner confiance à ses joueurs. Là, lui, il a dit attention, l'important, c'est de ne pas perdre. D'accord? Vaut mieux perdre en attaquant 2-3-0 que perdre comme il a perdu.
Il a
excuse-moi,
il a peut-être pas les joueurs.
Alors,
merci. La reprise en main et prise de parole du président Jean-Michel Aulas sont-elles comme un premier et ultime avertissement, Claude, pour toi?
Oui, bah oui, quand même.
Alors, parce que ça joue bien quand même, Claude.
J'ai dit en début quand même, il est dans son rôle d'intervenir. C'est normal, Lyon doit finir logiquement deuxième de ce championnat. Donc là, quand tu restes 5 matchs sans victoire et qu'épuisé avec une animation complètement désastreuse, il est évident de remettre un petit peu d'ordre dans la maison.
Farid.
Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse.
Jean-Michel Aulas. Pour
ce qui m'interpelle, c'est pourquoi finalement il a donné sa chance à ce duo technique brésilien.
Mais je sais pas, il y a une vague avec Leonardo du côté de Paris. Que Leonardo, c'est pas Juninho.
Il avait un autre palmarès, une autre expérience, Leonardo du terrain, ce qui n'était pas le cas de Silvinho et de Juninho. Et je pense que, comme disait Kamel, je pense qu'il va reconnaître rapidement son erreur et il va faire appel peut-être à quelqu'un en interne et qui peut-être même un Rémi Garde du côté du Canada. Mais c'est vrai que Aulas, qui avait pris du recul, revient sur le terrain et on devrait le revoir de plus en plus souvent devant les écrans.
Rapidement, Kamel, pour terminer sur Lyon.
Coach Aulas, pourquoi je déteste ce népotisme de Juninho? Parce qu'il avait le choix entre Silvinho et Sabri Lamouchi, qui est un top joueur, qui est lyonnais, qui a été coach de la Côte d'Ivoire, qui a entraîné Rennes. Et là, qui fait un travail sublime à Nottingham Forest en championship, qui est un championnat difficile. Il avait le choix de prendre un coach qui avait de l'expérience. Et il a pris son copain, qui est aussi nul et incompétent que lui. Et les résultats, c'est que les deux, ils vont aller bientôt.
C'est selon Kamel, cela. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec Kamel ou avec d'autres consultants de cette émission qui est Top Sport, vous faites le 0153483000, vous restez avec nous, bien connectés, et on revient de suite avec le Barcelone, le FC Barcelone. Il y a un magnifique maillot dans ce studio.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, n'oubliez pas le 0153 48 3000 pour réagir avec vos consultants. Je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner, Cynthia Lauvergeon, Farid Rouas, Kamel Aïd Kaira et sans oublier notre coach Tolé. On nous écoute du côté d'Aix-Marseille avec le 92.6, sans oublier Creil, le 88 FM et sans oublier aussi Le Mans, 102.9. On a parlé de Juninho, de Silvinho du côté de Lyon. Là, on va s'attarder sur les Blaugrana, Barcelone.
Time, time sport.
Et le Barça, justement, qui se rassure un petit peu contre Villarreal, 2-1. Le Camp Nou, ça les gagne en délicatesse, loin de ses bases, avec un match nul et 2 défaites en Liga. Le Barça continue son carton plein au Camp Nou, mais contrairement aux rencontres face au Betis, on le rappelle, 5-2, et Valence aussi, 5-2, les Blaugrana ont un peu plus de peine à vaincre Villarreal, 2-1. Touché à la cuisse, on le rappelle là aussi, Lionel Messi laisse Ousmane Dembélé revenir des vestiaires à sa place pour un deuxième acte qui se résume à un ballon monopolisé par le Barça et quelques fulgurances de l'ancien René sur son couloir. Mais le cas de l'Argentin ne devient-il pas inquiétant, messieurs les consultants? Justement, Farid, Lionel Messi, que dire?
Lionel Messi, oui, certes, il a été blessé. Après, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la victoire après la défaite contre Grenade. Cette victoire va les rassurer, va leur faire du bien en termes de confiance. Le trio aligné Messi, Suarez et Griezmann, normalement, c'est plutôt le trio titulaire indiscutable. Et a priori, le public n'a pas été non plus très rassuré par la prestation de Suarez. Celui-ci s'est même fait siffler une partie du temps de la deuxième mi-temps. Donc on mettait tout sur le dos de Griezmann avec son arrivée de l'Atlético Madrid, son transfert de l'Atlético Madrid, sa prestation très pauvre contre Grenade collée sur l'aile gauche. Et finalement, le Français a marqué son but très tôt dans la partie et il a fait son match. Donc c'est vrai que Barcelone est encore malade, un peu comme le Real Madrid en Liga, mais le Barcelone est toujours en vie.
Kamel, le Barcelone est toujours en vie selon Farid Rouas, selon toi. C'est vrai, oui, quand même, il est pas mal critiqué ce Barcelone sur cette saison 2019-2020, il faut le rappeler, en Liga.
Oui, ce n'est pas que cette saison, Bilal, même les saisons depuis que...
Ouais, Valverde, ça part un peu.
Ouais, depuis que Valverde est le coach. Il n'a pas donné ce flambeau, cette flamme qu'il y a à Barcelone. Moi, je regarde
cette
souvent...
Cette identité,
oui, il n'y a pas cette identité. Même dans le recrutement, des joueurs comme Vidal, c'est que des numéros 6 à l'italienne qui rentrent dans le... C'est que du physique, etc. On a besoin des milieux de terrain comme à la Xavi, Iniesta, comme à Verratti, des petits milieux de terrain qui vont se muer en numéro 10, qui vont faire des passes décisives.
Est-ce que ça existe encore?
Il y a Verratti, il y en a encore. Mais là ils ont, moi je pense que Barcelone, leur problème, leur gros problème. Comment?
Il y a De Jong quand même qui est
arrivé. Oui, il y a De Jong, ouais, mais pour l'instant c'est
l'Ajax qui vient.
Mais moi je pense que leur problème à Barcelone, au-delà de Valverde, c'est qu'ils savent pas acheter de joueurs. Ils savent pas acheter.
Quand même. Grande institution, grand club.
Non, mais ils savent pas acheter.
Gagner des Ligue des Champions.
Non, mais avec le Barcelone. Depuis la retraite de Iniesta et Xavi, il y a qui au milieu de terrain? Qu'ils ont acheté des.
Ça se perd un peu. Et on en avait parlé avec notre invité Tayeb Belmehoub, vous savez.
C'est du Vidal, c'est du. Comment ça s'appelle? C'est bon. C'est que des joueurs. Sauf qu'ils n'ont pas cette notion de recruter des joueurs pour justement leur système de jeu. Donc ils se disent, notre système de jeu, il n'y a plus à Xavi, il n'y a plus Iniesta, maintenant on va muscler le milieu de terrain. C'est ce qui s'est passé avec en faisant signer Vidal, etc. Donc non, moi je pense que c'est ça. Moi ils perdent leur identité. Et quand Messi va partir, ça va être encore pire. Moi je m'inquiète pour eux, sincèrement. Ça va devenir plus tard, quand Messi arrêtera, ça deviendra. Et encore, ils ont de la chance au milieu de terrain. C'est que Busquets fait des saisons exceptionnelles. Là. Début de saison de Busquets, c'est à lui tout seul qui tient le milieu de terrain de Barcelone. Donc moi le problème de Barcelone c'est ça. Valverde il est ce qu'il est, maintenant il peut. Et puis les achats, vous achetez Griezmann, pourquoi achetez Griezmann? Il n'y a pas de place pour lui sur le terrain. Il l'isole, le pauvre. En plus, je ne suis pas un fan de Griezmann, donc je dis le pauvre. Il l'isole côté gauche.
C'est ça.
Il l'isole parce qu'il ne sait pas où le mettre.
Parce qu'il a plutôt un rôle à la Messi, en fait.
Messi, normalement, il devrait être. Mais c'est Messi, donc c'est dès ça. Le départ, on ne doit pas acheter Griezmann. Parce qu'il joue le même rôle que Messi. Donc là, ils le mettent où ils peuvent, côté gauche. Allez, vas-y, essaye de faire quelque chose. Donc c'est pour vous dire l'absurdité de leur...
C'était peut-être pour anticiper une blessure, comme celle d'hier.
Oh, quand même pas.
Ouais, non, mais non,
il faut doubler les postes dans les grands clubs.
Oui, mais un joueur comme Griezmann ne peut pas se contenter d'être le remplaçant d'un joueur. Mais même, c'est pour dire la réflexion tactique et technique.
Il n'y a plus dégradant que d'être remplaçant de Messi. Quand même.
Oui, non, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, le projet footballistique, le projet tactique, le projet technique, il est où?
Non,
quand vous
d'accord.
achetez un joueur, surtout à 100 millions d'euros, c'est pas un joueur à 10 millions d'euros. Non. 100 millions d'euros, vous posez la question, je vais le mettre où sur le terrain quand même? C'est ça.
Le Barça a perdu depuis nombre de saisons, selon certains observateurs du football.
Ouais,
bah, coach Tolé, le Barcelone.
Kemel parlait de Di Aujourd'hui. Et de Xavi, ils sont. Là, tu nous parles des joueurs qui sont irremplaçables.
Des seniors.
Les meilleurs relayeurs.
Achetez des joueurs de leur profil, Claude, au moins, un minimum.
C'est difficile.
Sans être comme eux, mais de leur profil. Verratti, je veux pas le retirer. Verratti au PSG.
Non, il est intouchable. Il est intouchable.
Ah, selon Farid, intouchable.
Verratti, ça fait 3 ans qu'il dort. Hein.
Ouais.
Il est bien en Ligue 1 maintenant, je crois.
Ouais.
Je pense qu'à Barcelone, il se serait.
Après
ça, Claude
Sturgeon, c'est vrai que depuis 2-3 saisons, ça a perdu un peu cette institution qu'on connaît un peu du FC Barcelone. Et peut-être que c'est délicat là, de retrouver des joueurs capables d'insuffler ce.
Oui, mais leur centre de formation, qu'est-ce qu'il fait?
Ce jeu léché. Il y a peut-être moins de monde en ce moment. Peut-être que c'est plus compliqué. C'est vrai que tu as le petit Assou là, c'est ça qui
16 ans.
Voilà, mais bon, qui n'a que 16 ans. T'as le petit Brésilien qu'ils ont recruté aussi l'année dernière, Arthur, qui a un profil quand même assez similaire, qui fait jouer.
Oui, mais ça sera bon. Claude, ça sera bon dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils font quoi pendant ces 4 ans? Là, ça fait déjà 3 ans qu'ils végètent.
Adapte-toi.
Au milieu de terrain, la chance qu'ils ont, c'est que Busquets.
Ils vont gagner la Liga.
Il y a un moment, je pense que t'es obligé de t'adapter, de trouver un nouveau système avec des joueurs peut-être qui peuvent se rapprocher de cette institution, mais forcément la qualité est moins importante. Busquets ne restera pas non plus éternellement.
Oui, mais heureusement qu'il a ce niveau-là depuis des années, sinon ça serait la catastrophe.
Valverde obtient-il du sursis avec cette victoire? Surtout, le Barça vous a-t-il pour autant rassuré, notamment avec cette victoire? Et on oublie parfois nos Franchi, bon, le cas Dembélé, excusez-moi, ça va, mais Grisou, national, hein, Antoine Griezmann.
Non, c'est pas parce qu'il a marqué un but, c'était une passe-dé, mais moi je la mets la tête, faut arrêter. Parce qu'un jour avec.
Tu te rappelles de tes Balzani alors.
Les
auditeurs vont les écouter.
Bon,
tu peux être Zizou, tu peux être Griezmann, tu peux être. Non, là ça va.
Mais plus. Mais après, on va dire demain, ils vont nous dire les journalistes français. Griezmann, il a marqué un super but. Il est prétendant au Ballon d'Or. Arrêtons. Il a mis un but. C'est une passe décisive de Messi. Donc même moi, je l'amène. N'importe qui l'amène. Donc attendons de voir vraiment ce que fait sur plusieurs matchs et jusqu'au mois de novembre, décembre, Griezmann. Pour moi, c'est pas moi, il me convaincra pas parce que personnellement, sur son au niveau du système de jeu, il est perdu. Hein. Comme j'ai dit, le pauvre, on va l'isoler à gauche. Et puis après,
il faut redistribuer les cartes en attaque.
Après, il va subir
le
retour de Dembélé. Je pense que Dembélé, il va avoir les deux.
Ouais, mais ils ont pas le même profil quand même.
Le match de
Dembélé va jouer à gauche.
9h avec le fameux Brest Lyon. Et je crois qu'il y a eu un but justement du côté de Lyon. Alors, avec toi, le coach.
Ouais, c'est ça. C'est Lyon qui a ouvert le score grâce à Dembélé. Donc 1-0 pour les Lyonnais à Brest.
Ah, le pressing va être content à Lyon.
Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas, ce soir, 21h du côté de la Porte d'Auteuil. C'est le Paris Saint-Germain qui accueille le stade de Reims. Et justement, on en parle.
Time Sport, la victoire.
Ouais, mais à coup de pas. Hein. Là, ça devient assez fou. Justement, avant de revenir sur le cas du PSG, du gamin de Bondy, Kylian Mbappé, Claude.
C'est ça, donc Brest vient d'égaliser un partout, on ne connaît pas encore le buteur.
Ouais.
Un partout entre Brest et Lyon.
Comme mais quoi, j'en étais sûr,
dans le sport, ça va
j'en
vite.
Étais sûr.
Ça
les
va
miracles
très
n'existent
vite.
Pas, n'existent
et
pas.
Il faut arrêter de narguer, là, Kamel, c'est pas bon, parce que moi je reçois plein de dédicaces. Il faut calmer Kamel. Voilà, ça c'est Baptiste qui me le dit. Il y a aussi Bobo qui fait un bisou à sa femme Mimia, la femme de sa vie. Et aussi, on a Noura qui nous écoute avec Yanis. Voilà, ça c'est pour les petites dédicaces à passer dans Tamsport.
Je me calmerai alors, excusez-moi.
Sur Beurre FM. Allez, le Kylian Mbappé, le gamin de Bondy, c'est bien ça. À nouveau préservé face au Stade de Reims, l'attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus aussi, absent depuis un mois, a participé quand même à la séance collective des hommes de Thomas Tuchel mardi après-midi, mais n'intègre donc pas le groupe convoqué ce mercredi soir face à Reims. Le risque zéro n'existe pas. Mais avec le staff médical, on a décidé de ne prendre aucun risque. Il a encore besoin de quelques entraînements et on verra pour le match contre Bordeaux ce samedi, on le rappelle. Il doit voir encore valider un test à haute vitesse. Excès de prudence, Kamel, ou tout simplement Farid, volonté de protéger son prodige. Coach Tollet,
prudence,
toi.
Faut pas oublier qu'il s'est fait quand même une belle élongation à la cuisse sur une accélération. C'était lors du match contre Toulouse. À ce moment-là, tu arrives à la phase terminale de la préparation physique. Ça veut dire que en plus de la soigner, il y a tout un travail à refaire. Faut savoir que c'est souvent le mauvais moment quand on arrive en fin de phase de prépa de se blesser à ce moment-là. Donc après, faut être patient avec lui. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% pour être explosif et faire ses différences sur le terrain. Et puis surtout, le Paris Saint-Germain actuellement a quand même est en train de monter en puissance avec des joueurs qui sont en train de faire le boulot. Donc je pense qu'il préfère le préserver pour qu'il soit dans les meilleures conditions dans les semaines à venir.
Oui, Kamel.
On voit toute l'intelligence du nouveau staff médical qui est présidé par Chalabi.
On en a beaucoup parlé dans cette émission avec Mamadou. Donc, et aussi Marion.
Qui va professionnaliser le staff médical, parce qu'on savait que depuis des années il y avait un gros problème là-dessus. Bah oui, c'est normal, parce que c'est une blessure à l'ischio-jambe gauche. On sait que Mbappé c'est un joueur d'accélération, etc. Donc faut pas prendre de risques, surtout pour les matchs qui arrivent, Reims, Bordeaux, Dijon. Donc vaut mieux pas prendre de risques, parce que c'est un joueur qui accélère beaucoup, donc ça peut péter à tout moment. Et là, si ça pète, c'est minimum 6 semaines, 8 semaines. Donc voilà, donc je pense qu'il c'est en plus quand voilà, c'est des matchs contre Dijon, etc. Donc c'est pas des matchs, ils peuvent battre Dijon sans Mbappé, sans Cavani, etc. Donc voilà, c'est prudence intelligente de la part du staff médical du Paris Saint-Germain, et puis comme ça il le prépare pour les futurs matchs de Ligue des Champions. Et voilà, c'est très bien vu.
Ouais, Farid.
Je suis d'accord avec Kamel. Ouais. On apprend de ses erreurs au Paris Saint-Germain l'année dernière. Ouais, avec Mbappé, jouer Cavani, il s'était blessé derrière. Donc le petit français perçoit le bout du tunnel, mais on n'est pas pressé du côté du Paris Saint-Germain, surtout après les deux derniers matchs assez bien maîtrisés, aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Le coach Tourelle a vu qu'il avait de la profondeur sur le banc, et donc il peut encore faire sans Mbappé. Je pense que son retour est prévu pour le prochain match contre Bordeaux, et peut-être bonne nouvelle pour le match contre Galatasaray. Donc
ça sera chaud du côté de la Turquie avec ce match en Ligue des Champions face à Galatasaray. Le coach Tourelle, ouais, on t'écoute.
Bien que comme l'a dit Kamel, il te manque Cavani qui revient à peine. Comment il s'appelle, Icardi, qui a les adducteurs aussi qui sifflent, donc c'est pas le moment,
ouais, mais pas que
de faire entre guillemets n'importe quoi
aussi.
Et puis ils ont le magicien Neymar qui débloque tous les matchs et qui est là, qui fait un début de saison fantastique.
Et il a annoncé qu'il veut être le meilleur, Neymar.
Di Maria aussi,
il a annoncé qu'il voulait être le meilleur aussi.
Il est bien parti pour être le meilleur, sincèrement. Est-ce qu'on l'avait, dit avec, même avec Marion, l'avait
dit, Marion Hidalgo, la consultante,
préservé, l'avait dit qu'il allait faire une saison exceptionnel, et là il a fait un début de saison exceptionnel avec des buts fantastiques, et voilà, et c'est le facteur X du PSG, même s'il n'y a pas, vous imaginez, ils ont Cavani, Mbappé et Icardi sur le banc, et voilà, non, il fait tout
clair,
le boulot
c'est rapidement. Après, pour en revenir à Neymar, de toute façon il a toujours été extrêmement décisif avec le PSG, hein. Le problème, clairement, il n'est pas là. Faut pas oublier que c'est le joueur le plus décisif de l'histoire du club. Maintenant voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que là pour le moment ça enchaîne, le PSG ça va bien, comme souvent en début de saison. C'est tout l'environnement, toute la gestion à gérer ce dossier qui sera plus qu'épineux dans les mois à venir.
Pour Neymar, il a rapidement retourné la situation en sa faveur. Je l'avais dit ici.
Mais il y a certains supporters qui sont encore mitigés. Ils attendent de voir déjà le match de ce soir encore face à Reims.
Parce que Neymar, après sa prestation, il a mis les supporters dans sa poche. Après, c'est pas gagné.
Termine, parce que là, c'est assez chaud quand même.
Il va continuer à démontrer son potentiel, à donner des victoires au Paris Saint-Germain, et je pense que l'ensemble du public parisien sera de son côté pour le reste de la saison.
Après, faut que le public parisien soit intelligent, et je pense que c'est un public intelligent. Faut pas confondre l'homme et le footballeur. L'homme, il a eu ses défauts, il y a pas de problème, il a fait des erreurs. Mais le footballeur est fantastique. Toutes les équipes au monde aimeraient avoir un Neymar. Donc,
on n'a jamais eu un aussi bon.
Et pour la Ligue 1, la Ligue des talents, je dirais la Ligue des talents avec Mbappé. Mais je veux dire, donc voilà. Donc je pense que les supporters, il y a un moment donné, il est là pour marquer, pour faire gagner le PSG. Il est pas là. Voilà, il est pas là pour être leur, il est pas là pour être leurs amis. Donc, il y a un moment donné, voilà, applaudissez ce jour exceptionnel parce que le jour où il va partir, il va manquer à tout.
Ouais, mais les vrais supporters, par exemple,
c'est quoi un vrai supporter, Claude? Arrête-toi avec les vrais supporters. C'est quoi un vrai supporter?
Tu vas pas les demander aussi la définition.
T'as des footix, t'as des mecs qui suivent le PSG depuis 2011. Et alors, qui sont là depuis les années 80.
Parce que c'est des vrais supporters, ils ont tous les droits.
Non, mais ils ont une certaine connaissance. C'est des gens qui payent leur billet, qui payent leur abonnement pour aller au Parc des Princes. C'est des gens qui ont vu le PSG qui a failli donc connaître
ceux qui payent, connaissent pas forcément le football.
Qui a failli connaître la Ligue 2. Donc ils demandent un minimum de respect de l'institution. Donc après, ils sont en droit quand même. Ils ne remettent pas en cause le talent du joueur. C'est pas le problème. Ils remettent en cause le je m'en foutisme un petit peu, le bordel.
Mais tant que sur le terrain, il fait ce qu'il fait.
Y a pas, ouais, mais voilà. Ils ont le droit quand même de se dire attends, on n'est pas des ploucs, on n'est pas des animaux, on paye quand même notre. Oui, ils sont contents quand le PSG s'impose.
Il faut arrêter avec les vrais supporters, les supporters qui disent c'est mon club,
ils ont
le droit. Mais il faut arrêter, ils n'ont pas tous les droits. Mais je suis d'accord avec toi, Claude. Mais ils n'ont pas tous les droits. De là à critiquer un joueur comme Neymar, mais arrêtons, s'il vous plaît.
Ils ont le droit de critiquer. Ils sont supporters du club, quand même.
Je vous le dis, arrêtons.
Mais ils ont le droit de le critiquer.
Ils peuvent critiquer tout le monde sur leur canapé, c'est facile.
C'est des supporters. Mais oui, mais c'est des supporters, justement. C'est comme ça. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On reviendra de suite avec l'AS Monaco et ce fameux derby azuréen face à l'OGC Nice. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, toujours en compagnie de vos consultants autour de la table, je vous rappelle, le coach Yotolé, Kamel Aidkera, Presidente, et avec aussi Farid Rouassa, le 0153483000. Mais on a beaucoup de réactions sur la twittosphère qu'on reçoit. Voilà, avec des petites dédicaces pour Razo, sans oublier Simon. Voilà, au moins ça c'est fait. Et oui, on a parlé du cas Mbappé, mais aussi de la... non méforme, mais plutôt la joie de vivre qu'a un certain Neymar Junior avec le Paris Saint-Germain, et on l'espère aussi l'avoir ce soir face à Reims. On va s'attarder sur le match concernant l'AS Monaco face à Nice. Il a été assez intéressant, ce match-là.
Time Sport. Le duel.
Avec un Golovin des grands soirs et un Fabregas retrouvé, l'AS Monaco remporte enfin la première rencontre de sa saison aux dépens des Aiglons peu inspirés. 3-1, on le rappelle. Grâce à cette victoire culottée, les joueurs de Leonardo et Jardim peuvent enfin souffler. En quelque sorte, ce derby de la Côte d'Azur s'annonçait déséquilibré et Jardim pouvait déjà sauter en cas de défaite hier soir. L'histoire ne retiendra-t-il pas ce coup de maître tactique de l'entraîneur portugais, on tient à le rappeler, ayant composé un entrejeu plus compact et aussi créatif que celui de son adversaire, grâce surtout à un Cesc Fabregas repositionné justement numéro 10 et avec un duo Golovin-Bakayoko détonnant. Farid, tu es d'accord avec ça, je crois?
Oui, tout à fait. On peut aussi
pas si facile face à Patrick Vieira et ses hommes.
Il n'était pas non plus sur le terrain.
Aussi.
Et donc il était sur le banc de touche pour une fois, et c'est vrai que là, cette fois-ci, l'équipe a montré une certaine cohérence. Malgré un début de match assez poussif, les Monégasques sont restés dans la partie et ils ont connu une première victoire qui va leur faire du bien après 7 journées de championnat, il faut le rappeler. C'est étonnant pour l'effectif monégasque et pour l'équipe de Jardim. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Ben Yedder, de nouveau, a marqué son 4e but à domicile pour ses 3 matchs à domicile. Donc, il fait du bien avec Slimani devant. Après, pour Jardim, je pense que oui, cette victoire va lui faire du bien. Mais on va de nouveau l'attendre le week-end prochain contre le Stade Brestois.
Ouais. En tout cas, ça fait énormément, on va dire, plaisir à tous les supporters de l'AS Monaco, et aussi une joie de vivre qu'on a pu apercevoir aujourd'hui à la suite de cette victoire au lendemain, plutôt du côté du Rocher, plus précisément à la Turbie. Kamel.
Oui, dès en premier temps, déjà, je vais satisfaire nos auditeurs, nos auditrices. Je vais me calmer hein, parce que je me fais engueuler parce que je suis trop
non,
excité.
Quand même pas.
Et ma sœur aussi m'a envoyé des messages. Fadila en me disant de me calmer aussi. Donc Fadila, je me calme. Non, je pense que Jardim a envoyé un message avant le match à son groupe en mettant Glick remplaçant. Exactement. Parce que ça fait 2 ans que Glick est complètement... C'est plus un joueur de football, hein, Glick.
Et je crois même que tu l'avais dit sur ce plateau.
Ouais, c'est plus un joueur, malheureusement. Et c'était l'homme fort du groupe, entre guillemets, hein, l'homme fort. Donc il a envoyé un message, voilà, il a pris des risques. Il a fait des choix dans la vie, il faut faire des choix. Quand on veut prendre des risques, comme on dit, il s'est dit qu'il allait mourir avec ses idées. Et ça a réussi, hein, ça a primé. Il a fait je crois que ça a été très intelligent de sa part, mettre Fabregas, parce que qui était mauvais, hein, depuis pas mal de temps, le mettre en numéro 10 derrière Slimani. Slimani, et c'était qui à l'attaque, c'était pas Ben Yedder, c'était Augustin. Voilà, donc, et puis faut dire que Slimani, il a pas un travail magnifique, hein, au niveau de l'attaque, tant au niveau défensif qu'au niveau offensif. Donc voilà, donc moi je pense que le déclic de ce match là ça a été Glick sur le banc de touche.
Ouais.
Parce que c'est un geste fort et les joueurs ont compris qu'à un moment donné, il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités du fait que Glick soit, qui est quand même le capitaine, soit sur le banc de touche. Ils ont fait un match. En plus, c'était contre Nice, qui est une belle équipe, hein, qui était en plus le derby. Donc voilà, maintenant après, comme on dit, c'est que des one shots, c'est victoire. Et à un moment donné, faut voir sur plusieurs matchs jusqu'au mois d'octobre, novembre, comment ça va se dégoupiller. Mais moi, j'aime bien Jardim, j'aime bien Monaco. Ils ont des joueurs. Bon, après, faut qu'ils arrêtent d'acheter parce qu'il y aura plus de place dans les vestiaires, hein, parce qu'ils ont au moins 90 joueurs. Et à un moment donné, ça va, quoi.
Avec Claude, on termine avec toi concernant Monaco, les hommes de Jardim. Magnifique victoire hier soir.
Un peu psychologique, tu bats Nice.
Ouais.
C'est le derby de la Côte d'Azur, donc qui plus est, victoire extrêmement importante. Maintenant, va falloir voir, comme l'a dit Kamel, faut confirmer. Il va falloir une série parce que dans cette Ligue 1, quoi qu'on en dise, t'as besoin d'un grand AS Monaco. C'est clair. Donc, espérons que voilà.
Allez, on passe à la dernière rubrique de cette émission. L'Olympique de Marseille nous attend.
Time Sport, le mode pressing.
Oui, l'Olympique de Marseille s'en sort très bien à Dijon. Bon, sur un match nul. Dominion en deuxième période, tout de même, il a réussi à éviter la défaite et à faire un match nul, moyen on peut se dire, face à une équipe qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Conforama, on le rappelle, ça c'est sûr, privé de 3 titulaires habituels. Alvaro Gonzalez, on le rappelle, Boubacar Camara, Kamel, et Dimitri Payet. Est-ce une explication suffisante pour justifier justement qu'il n'ait fait illusion pendant une mi-temps, la première, on le rappelle, là aussi, pendant laquelle ils se sont procurés toute leur occasion, avec Maxi Lopez à la 3e, Valère Germain à 26e et 39e, et Lucas Perrin à la 30e. Selon vous, Kamel?
Non, moi je pense que déjà, aller jouer à Dijon, c'est pas facile. Hein, même quand on a beau dire, même s'ils n'ont pas gagné leur match, parce que c'est les lanternes rouges et c'est toujours très difficile d'aller jouer contre les derniers, surtout chez eux à domicile, hein, parce qu'ils jouent leur vie, donc c'est pas évident. Et là, surtout en plus avec des joueurs suspendus, blessés. Et la première aussi sur le défenseur central Lucas Perrin qui a 20 ans, qui joue dans l'axe. Et on sait très bien que depuis l'année dernière, les plus gros problèmes de Marseille, ça a été dans l'axe, hein, parce que c'était un souci. Non, moi je pense que c'est un bon résultat. Villas-Boas l'a dit, hein, et tu l'as dit, Bilal, hein,
ouais.
Camara suspendu, Alvaro blessé, Payet suspendu, Thauvin blessé, donc c'est quand même du lourd.
Comment se satisfaire d'un match nul chez la Lanterne Rouge, on peut pas dire.
Mais justement, Farid, dans le football, tu sais, quand tu vas chez le dernier qui joue sa survie et que t'as tes joueurs majeurs qui sont blessés ou suspendus, t'as Chaner Central qui a un joueur de 20 ans et qui a la Tachard qui est pas non plus au top, c'est déjà pas mal, parce que faut pas oublier que Mandanda a fait un grand match, hein, parce que si c'était le Mandanda de la saison dernière, il y aurait pas eu 0-0. Maintenant, je pense que c'est un bon résultat. Ils sont 3e. Ça va quand même. Moi je pense que
invaincu depuis 6 matchs.
Et merci l'expérience de Villas-Boas, hein. Vous voyez, quand on prend des entraîneurs d'expérience, voilà, on arrive à être.
Message à Lyon ou...
À Lyon, oui.
Je sais pas, je sais pas ce qu'il a contre Lyon. Ouais. Hein, on va démanteler cela. Hein, parce que Kamel, il a assez chaud sur l'Olympique Lyonnais.
Non, mais sur les deux.
Allez, Claude.
Un bon résultat, Kamel. Je sais pas, l'OM s'en sort quand même bien. L'OM s'en sort quand même bien pour avoir vu la rencontre. Alors peut-être qu'il manquait du monde à Marseille, mais même avec les joueurs moins, tu dois être capable de passer l'équipe de Dijon qui récupérait 3-4 joueurs. T'as une équipe qui n'a marqué que 2 buts en Ligue 1, dont un sur pénalty. Alors bien sûr que c'est le match idéal pour Dijon pour se relancer, et ils ont montré quand même des vertus assez intéressantes. Maintenant tu jouais comme chez le dernier, Marseille, si ils prétendent à aller chercher les places européennes, tu dois être capable de t'imposer
et surmonter. Alors, après, les absences, exactement.
La série continue. Ok, c'est vrai, mais tu restes sur deux rencontres de match nul, ça fait que deux points. Voilà, ça retourne à la réalité côté Marseillais.
Farid, on termine avec toi concernant l'Olympique de Marseille.
Il y a un avantage avec toutes ces blessures et ces suspensions, c'est peut-être que Villas-Boas va faire appel au centre de formation. Kamel a parlé de Perrin, mais il y en a d'autres comme Aké, Chabrol, qui est un jeune du Val d'Oise. Et j'espère que Villas-Boas va taper dans le centre de formation pour donner la chance aux jeunes.
Eh ben pour cela, on verra avec la suite de cette Ligue en Conforama. On va parler, allez, on a parlé quand même pas mal de football. Elle est avec nous, on l'a pas entendue de toute l'émission, mais pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, c'est Cynthia Lauvergeon qui est avec nous. Et un grand merci de nous assister, une grande championne qui fera quelquefois des apparitions dans cette émission en tant que consultante. Cynthia, pour nous parler des sports de combat. Comment ça va, Cynthia ?
Ça va très bien, Bilal. Merci de me recevoir. Bonsoir à tous.
Et justement, on aimerait parler avec toi. Samedi approche, une magnifique réunion, on l'espère, avec le retour de Tony Yoka sur les rings. Je crois qu'il rencontrera l'Allemand Michael Wallisch, si c'est bien ça. Et le promoteur de cette fameuse réunion de ce samedi soir du côté de Nantes, c'est bien ça, la H Arena, a dit qu'il avait vendu à peu près les 6000 voire 8000 places de la salle, comme quoi voilà, c'est bien guichet fermé. Une petite réaction concernant cette fameuse soirée qu'on pourra retrouver, mais aussi sur le retour de notre grand champion qui est Tony Yoka. Après le sacre, on se rappelle tous, avec un couple en or avec sa femme, mais là c'est vraiment lui qu'on aimerait voir au sommet de sa forme.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le retour de Tony Yoka après un an de suspension. Donc ouais, effectivement, il a encore ses preuves à faire en boxe professionnelle. Il a été donc champion olympique à Rio en amateur. Et donc c'est une grosse soirée boxe qui s'annonce à Nantes, puisqu'effectivement la H Arena, une salle de 6000 spectateurs, ouais, affiche complet déjà depuis deux semaines. Quand donc Tony Yoka affronte l'Allemand Michael Wallisch. Donc ce sera son 7e combat professionnel. Donc il a déjà 6 victoires à son compteur, dont 5 par KO. L'objectif de Yoka, c'est d'atteindre d'ici la fin d'année la 15e place mondiale, parce qu'actuellement il est classé 44e.
Et c'est trop loin.
Et c'est trop loin, mais vraiment, c'est normal, parce que donc il est, comme je l'ai dit, c'est son 7e combat professionnel, donc il faut lui laisser le temps à Tony de monter dans les classements. Et effectivement, s'il gagne samedi, il peut gratter une vingtaine de places et donc être parmi les 20 premiers mondiaux. Donc en fin d'année, un autre rendez-vous l'attend face à un Allemand toujours, Christian Hammer, qui lui est classé 16e. Donc ce sera à Paris cette fois-ci. Ouais. Donc Tony Yoka, c'est le grand espoir français de la boxe en catégorie poids lourd, parce que effectivement on n'a jamais eu de poids lourd français qui a fait ses preuves au niveau mondial, malheureusement. Ouais. Donc il est dans une grosse catégorie et il a signé déjà un contrat avec un gros promoteur américain. Il devrait faire ses débuts outre-Atlantique au printemps prochain.
On espère bien, justement. Voilà. Il est un peu trop décrié. Comment expliquer cela, Cynthia, Tony Yoka? C'est vrai que des fois, par exemple, on assiste à nombre de combats. Il y a eu des personnes avec moi qui m'ont accompagné. On avait travaillé avec Saïd Hamda, avec Jouba Wichen. On était du côté de Port de Versailles où il avait fait déjà un nombre de combats. Mm-hmm. Et nous, on a trouvé des fois un peu le public assez remonté contre Tony Yoka, où on avait des adversaires qui n'étaient pas à peu près à la hauteur ou d'un certain standing, des combats fameux, si je peux me permettre, de niveau européen, non pas mondial, mais c'est vrai que on a du mal à suivre l'ascension de notre champion qui est Tony Yoka. Comment l'expliquer, Cynthia?
Alors comment l'expliquer? Déjà, il faut lui laisser le temps, parce qu'il vient tout juste d'arriver en boxe professionnelle. Donc ils sont tous passés par là, Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder. Ils ont tous affronté des boxeurs plus ou moins de niveau à leur début.
Ouais, mais on a l'impression que
parfois c'était pas des boxeurs, excusez-moi. C'était des videurs de bois, c'était des.
Oui, wow, quand même.
Non, mais c'est là, à un moment donné, faut voilà.
Après, vous savez aussi qu'il y a
même pas. Ouais. Je veux dire, ils avaient arrêté la boxe il y a 10 ans.
Effectivement, mais vous savez qu'en boxe, il y a un côté aussi bling-bling, il y a un côté médiatique. C'est un petit peu aussi un produit, Tony Yoka, donc il n'est pas non plus, comment dire, le premier décideur de ses adversaires, malheureusement.
Oui, mais si on veut faire revenir la boxe en France, etc., il y a un moment donné, il faut programmer des vrais combats de boxe. Je veux dire, il faut prendre des risques. C'est la meilleure façon de faire fuir les spectateurs. Quand ces 3-4 premiers combats, là, ce n'était pas des boxeurs qu'il y avait en face de lui, sincèrement. C'était des vendeurs dans les marchés de boucher. Il y a un moment donné, il faut prendre des risques, il faut donner.
Ouais, certaines fois, vous voyez, des fois on disait que c'était pas trop de boxeurs.
Il y en a qui s'y plaît. Mais est-ce qu'on lui laisse prendre des risques? C'est ça la question. Est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il est vraiment le premier décideur, Tony Yoka, je pense.
À ce moment-là, en ne prenant pas de risques, il peut faire 50 combats. Hein,
il va en prendre des risques, mais il faut lui laisser le temps, justement. Comme il l'a annoncé en 2020, il va en prendre des risques. Moi, j'en doute pas là-dessus.
Ouais, il a pas peur, Tony Yoka, et on prend lui. C'est bien ça.
Faut lui laisser le temps. Pourquoi on est dur comme ça avec lui?
Parce qu'on a l'impression. Je pense qu'à un moment donné, on peut prendre des boxeurs de niveau inférieur, mais qui ressemblent à des boxeurs. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a pris des boxeurs de niveau inférieur, mais qui ne ressemblaient pas à des boxeurs. Des boxeurs qui étaient en surpoids.
Tony Yoka,
ça va être le futur Mohamed Ali, bien sûr. Des fois, sur ce plateau, si j'ai pas mon pacemaker, je vais avoir une crise cardiaque. Mais ne parle pas. Quand tu parles de Tony Yoka, ne mets pas.
On termine avec Cynthia.
Excusez-moi, mais moi je rejoins Claude sur ce point parce qu'au niveau du style, Tony Yoka c'est un styliste. Il boxe sur les jambes. Il rappelle un petit peu Mohamed Ali à ses débuts.
C'est vrai quand même.
Mais bon,
on laissera faire.
À un moment donné, j'ai l'impression qu'en France, ils n'ont pas de mémoire. Regardez les derniers combats de Tony Yoka.
On a de la mémoire et on reviendra justement sur le fameux combat à la Réunion de Tony Yoka du côté de Nantes ce samedi soir. On vous rappellera toutes les infos à donner concernant cette réunion. Vous restez à l'écoute de la suite des programmes sur l'antenne de Beurre et nous on se retrouve demain à partir de 19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.